le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le service protestant. Aujourd'hui s'achève la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Semaine pendant laquelle protestants, orthodoxes, catholiques, orientaux se sont rencontrés pour partager, discuter et prier. À cette occasion, je vous propose de découvrir une traduction œcuménique de la Bible. Il s'agit de la Nouvelle Français Courant, éditée chez Biblio. Alors comment traduire la Bible? Pourquoi réviser une traduction? Qu'est-ce qu'une traduction œcuménique? Nous en parlons tout de suite avec notre invité. J'ai donc le plaisir d'accueillir Valérie Duval-Poujol, théologienne de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez coordonné le projet de révision de la Bible en français courant, qui aboutit en septembre dernier à la sortie de la Nouvelle Français Courant. Avant de vous laisser nous présenter quelques textes bibliques issus de cette nouvelle traduction, d'abord une question un peu générale. Comment traduit-on la Bible? Quelles sont les sources? Quels sont les outils?
Alors, la Bible a été écrite en hébreu, araméen pour le Premier Testament et puis le grec pour le Nouveau Testament. Donc, le travail des traducteurs, c'est de retourner à ces textes. Alors, nous n'avons pas les originaux, nous travaillons sur des copies de copies, des manuscrits excellents et donc nous traduisons à partir de ces textes.
Quelle est l'histoire de la Bible en français courant? À quel public s'adresse-t-elle? Quand est-ce qu'on commençait les premiers travaux sur cette traduction?
La première français courant, c'est dans les années 70, à une époque où les études linguistiques ont fait d'énormes progrès et ont fait un effort pour que le texte biblique soit particulièrement compris dans la langue réceptrice, qu'on ne soit plus dans un décalque de la langue source, le grec ou l'hébreu, mais que on essaye vraiment de faire comprendre le texte dans un langage accessible, courant, d'où le nom français courant.
C'est ce qu'on appelle donc une traduction dynamique.
Voilà, une traduction à équivalence dynamique par opposition à une traduction plus littérale.
Alors vous avez coordonné ce projet de révision, comment ça s'organise une révision? Ça nécessite combien de temps, combien de personnes?
Oui, une révision, c'est un travail d'équipe. Là, j'étais la chef de projet avec 60 collaborateurs, des réviseurs de toute la francophonie. Il faut aussi avoir une équipe qui soit de toutes les dénominations, puisque c'est un projet interconfessionnel, des protestants, des catholiques, des orthodoxes et même un rabbin. Et puis, il faut aussi une dimension internationale avec toute la francophonie, le Canada, la Belgique, la Suisse, bien sûr la France et l'Afrique. Et puis, on essaye d'avoir un équilibre aussi au niveau des genres, des hommes, des femmes et toutes les générations. Donc, un vrai travail d'équipe.
Quels ont été les grands axes de cette révision, les grands chapitres des choses qu'il fallait revoir dans cette traduction de la français courant?
Eh bien, tout d'abord, il y a le vocabulaire. Il se trouve que la langue française évolue et donc il a fallu revoir des mots qui étaient devenus désuets ou qui avaient pris un autre sens. Par exemple, l'expression frère de race, aujourd'hui qui est devenue très connotée. Ou bien dans les proverbes, il y avait beaucoup de sots. Alors si la sottise est encore une expression courante, il n'y a plus beaucoup de sots dans notre langage. Donc on a dû comme ça réviser le vocabulaire qui était devenu un peu désuet. Et puis comme autre axe de révision, on a fait attention à l'oralité. On s'est rendu compte que les textes bibliques, quand ils étaient lus en particulier en communauté, pour les cultes ou les réunions, ils étaient parfois difficiles à entendre. Et là, on a fait un effort, on a fait une relecture particulière pour que ce soit à l'oral quelque chose de facile à entendre et à comprendre.
Il y a aussi, je crois, eu un effort sur un langage parfois devenu trop sexiste.
Oui, c'est la langue française qui... La langue française est assez sexiste et les traductions de la Bible française étaient assez sexistes. C'est-à-dire que même lorsque le grec ou l'hébreu incluait les femmes, eh bien nos traductions françaises continuaient à parler d'hommes, petit h. Donc on a essayé d'avoir un langage plus épicène, c'est le mot technique, pour décrire un langage qui inclut à la fois des hommes et des femmes. Donc étant fidèle au grec et à l'hébreu, d'essayer de rendre au cas par cas, par les mots de personne, humanité, être humain, pour rendre davantage justice au texte.
Au niveau plus personnel, au niveau de votre foi, qu'est-ce qui vous motive dans le fait de rendre accessible ce texte biblique d'une façon nouvelle?
Alors, la Bible, pour moi, c'est comme un très bon repas. Et là, j'ai l'impression de pouvoir inviter d'autres à ce festin et d'avoir préparé, oui, d'avoir pris du temps à préparer un bon repas. Et je me réjouis maintenant des invités à la table qui vont pouvoir le savourer.
Alors nous allons pouvoir savourer un petit peu de ce repas, parce que vous allez nous conduire dans un temps de réflexion et de méditation autour de trois textes bibliques, issus donc de cette nouvelle français courant, où vous nous préciserez d'ailleurs certains choix de traduction. Et pour commencer, un texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13.
Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse qui tu es. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. S'il y a une prière de la Bible que l'on connaît bien, et souvent même qu'on est capable de réciter par cœur depuis notre tendre enfance, c'est celle-ci, le Notre Père de Matthieu 6. La prière par excellence, comme l'appelait le théologien protestant Dietrich Bonhoeffer. En cette semaine de l'unité, la plupart des rassemblements interconfessionnels qui ont lieu vont se terminer sans doute avec cette prière. Pour savourer ce que cette récitation commune veut dire, il faut se rappeler d'où on part. En France, il faut attendre 1966 pour pouvoir réciter ensemble un seul et même texte adopté par tous. Texte qui avait été préparé par un groupe de travail inter-église, texte différent des versions liturgiques de chaque église, et même différent de la traduction œcuménique de la Bible, la Tobe. Avant, il existait de nombreuses versions différentes. Voilà donc 50 ans seulement qu'on prie les mêmes paroles. Notons à regret que dans certains pays, ce n'est toujours pas le cas, et réalisons la vitalité, la fécondité de l'œcuménisme en France. Certains se souviennent avec émotion de la première fois, dans ces années 60, où on a pu prier cette même prière avec d'autres chrétiens. Et c'est aussi à cette occasion qu'on va se mettre à tutoyer Dieu du côté catholique, alors que jusque-là on disait « Donnez-nous notre pain ». Les protestants, eux, depuis la première traduction protestante de la Bible, celle d'Olivetan, tutoyer Dieu, ce qui correspond en fait au grec, et vont positivement contaminer les catholiques. Depuis, le miracle d'unité se reproduit à chaque célébration. Par ces simples mots « Notre Père », nous posons d'emblée notre fraternité en Christ, lui le Fils de Dieu, qui fait de nous des enfants du même Père. Alors que la même prière en Luc 11 commence seulement par « Père », celle de Matthieu, avec ce simple pronom « Notre », réaffirme à la fois l'unité déjà donnée, déjà accomplie en Christ, et en même temps, encourage sur la route de l'unité encore et toujours à construire et réaliser ici-bas, ouvre des horizons, sème des promesses, notre Père. Impossible d'épuiser l'ensemble des richesses de cette prière, ou même l'ensemble des défis que pose sa traduction en français, comme l'ont montré les récents débats autour de l'expression si difficile « ne nous soumets pas à la tentation », désormais rendue par « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Ajoutons qu'on l'a appelée une nouvelle traduction, mais n'oublions pas que c'était déjà celle de la Bible Second dans les années 60. Si vous voulez revisiter ce dossier et profiter d'une bonne nourriture, je vous recommande chaudement le travail du groupe des Dombes qui s'appelle « Vous donc, priez ainsi », publié chez Bayard, un commentaire instructif du Notre Père réalisé par ce célèbre groupe œcuménique avec un sous-titre très prometteur « Itinéraire pour la conversion des églises ». Ce matin, ensemble, je propose de nous arrêter sur deux mots de ce texte qui sont particulièrement saisissants dans la nouvelle français courant. Il est bon, face à une prière récitée, parfois à la va-vite, d'être interpellé par une nouvelle traduction afin de se poser et de méditer le vrai sens des mots. Que chacun reconnaisse qui tu es, que nous connaissons mieux sous la forme « que ton nom soit sanctifié », ce qui est une traduction littérale. Mais que signifie sanctifier un nom, le rendre saint? Le nom de la personne, dans la mentalité biblique, c'est l'ensemble de la personne, tout ce qu'elle est, sa personnalité, ses actions, son identité telle que révélée au monde. Le nom de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ici, il s'agit de reconnaître qu'il est le Dieu saint, c'est-à-dire unique, le seul vrai Dieu, et nous prions notre désir de le voir être reconnu comme tel par tous. Nous disons aussi que nous voulons mieux le connaître, non pas comme nous croyons qu'il est, comme nous l'avons déjà défini ou expérimenté, mais que chacun reconnaisse qui tu es. Le deuxième mot se trouve dans la quatrième demande que le Seigneur Jésus nous encourage à exprimer auprès de Dieu, notre Père. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le mot grec employé ici, et qui est rendu « dont nous avons besoin », n'est employé nulle part ailleurs dans toute l'histoire du grec. Aucune autre attestation, aucun autre emploi. Les spécialistes identifient deux sens possibles. Pour le jour qui vient, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain, avec l'idée de quantité suffisante pour une journée, d'où la traduction « pain quotidien ». Ou bien, et on connaît moins ce sens-là, « indispensable à la vie », super substantiel, en référence à la personne du Christ, reçue comme nourriture, lui le pain de vie. On retrouve cette compréhension chez le théologien du IIIe siècle de notre ère, Origène, ou dans la traduction latine, la Vulgate, et dans certaines traditions orthodoxes qui demandent notre pain essentiel. Avec la traduction « le pain dont nous avons besoin », on essaie dans la Nouvelle Français courant de garder la richesse des deux sens. Pourquoi Matthieu a choisi un terme inconnu? Il y a un autre récit dans la Bible où une nourriture est désignée d'un mot inconnu, dans un passage où Dieu pourvoit aux besoins de son peuple. Le récit de la manne, en Exode 16. Le mot lui-même de « manne » est un mot inconnu, en hébreu « manou », qui signifie « c'est quoi ?». Tous les matins, les Israélites ramassaient du « c'est quoi ?», du « kézako » pour se nourrir, et ce pendant leurs 40 années au désert. Le parallèle avec notre texte de Matthieu 6 est intéressant pour nous rappeler que Dieu est un Dieu qui pourvoit. On peut lui confier nos besoins, car de même qu'il a pourvu dans le désert, il prend soin de nous et nous donne ce dont nous avons besoin.
Valérie Duval-Poujol, nous poursuivons avec vous ce tour d'horizon de la Bible Nouvelle Français Courant avec ce deuxième texte qui comporte aussi de nouveaux choix de traduction et que vous lisez dans le livre de la Genèse au chapitre 2, les versets 18 à 25.
Le Seigneur Dieu se dit « Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. » Avec de la terre, le Seigneur façonna quantité d'animaux sauvages et d'oiseaux et les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'être humain lui donnerait. Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas de vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit un de ses côtés et referma la chair à sa place. Avec ce côté, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. Celui-ci s'écria « Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront tous deux une seule chair. » L'homme et la femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune gêne l'un devant l'autre. Voilà un récit lu à de nombreux mariages dans les églises de toutes dénominations. C'est la première fois qu'apparaît, dans le récit de la création, où tout est déclaré « bon » par Dieu, cette expression « il n'est pas bon ». Un manque apparaît. L'homme est créé, mais il lui manque quelque chose. La plupart des traductions modernes évoquent ici « l'aide » que représente la femme pour l'homme. Je vais lui faire une aide. De quelle aide s'agit-il? C'est un mot fourre-tout, un peu faible. Elle lui repassera ses chemises? Elle élèvera les enfants pendant qu'il progresse dans sa carrière? C'est malheureusement la mauvaise compréhension du terme hébreu employé dans ce récit de la Genèse qui a conduit à comprendre le rôle de la femme comme une quasi-esclave de l'homme, à comprendre les rapports entre hommes et femmes en termes de domination, soumission, entre les deux genres de l'espèce humaine. Le terme hébreu employé ne dit pas cela du tout. Le texte de la Genèse dit que Dieu va faire à l'homme un « ézer kenegdo ». Le premier mot « ézer » décrit une collaboration lorsque la force d'une personne est insuffisante. Il peut alors être traduit par « soutien », « secours » et même « salut ». C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la plupart des occurrences de ce terme dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui en est le sujet. Dieu est notre « ézer ». Il ne nous viendrait pas à l'idée de dire que Dieu est notre aide, mais il est notre secours. C'est ce que la femme est pour l'homme, et réciproquement. D'où la traduction de la Nouvelle Français Courant, un vis-à-vis capable de le secourir. Le texte biblique enseigne que l'être humain a besoin d'être secouru. De quoi doit-il être secouru ? Du danger d'être qu'avec soi, entre soi, avec le même, le risque de la toute-puissance que seule l'altérité peut enrayer. Le second mot employé est capital aussi. Cette aide est qualifiée de « kenegdo », expression rare, littéralement « comme en face de lui, lui correspondant ». Deux significations importantes pour cette expression. Elle vient du verbe « nagad », communiquer par la parole, dire, annoncer, raconter. Donc ici, la façon qu'ont l'homme et la femme de se correspondre sera d'être un vis-à-vis qui, par leurs paroles, vont s'aider à se construire. Mais ce face-à-face peut aussi être compris comme un front-à-front et comporter une dimension de résistance. Cela veut dire que dès le départ, Dieu prévoit que l'un des moyens pour l'homme et la femme de se construire, de s'épanouir, sera le front-à-front, le conflit. À l'homme et à la femme, de savoir si cette résistance sera productive ou destructrice. Dans la Genèse, le conflit, et non la guerre, qui est un conflit mal géré, le conflit permet la rencontre de deux sujets, front à front. Distinguons bien d'une part ce conflit positif, constructif, qui se résout par la négociation, et d'autre part la violence conjugale, qui est une position asymétrique, brutale, de domination, d'emprise. Ayons une pensée pour ces femmes qui souffrent chaque jour dans notre pays, sous les coups et les humiliations de leurs partenaires ou ex. Continuons de nous mobiliser pour que cesse ce fléau. Pour revenir à notre texte, l'un des défis de notre génération, c'est d'oser voir la dimension positive du conflit. L'altérité front à front entraîne des heurts. À nous de savoir si ce sont de bons heurts ou des mals heurts, des bonheurs ou des malheurs. Relisons la Nouvelle Français Courant. Le Seigneur Dieu se dit « Il n'est pas bon que l'être humain soit seul ». Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. On retrouve cette idée de vis-à-vis dans les versets suivants. C'est à partir du côté d'Adam qu'Ève est formée, et non pas, comme on l'entend dans certaines traductions, de sa côte, comme si Ève était un simple morceau d'Adam. Le mot hébreu « tsela » qui est employé ici signifie « flanc »,« côté », »,« jamais côte ». Il désigne par exemple les côtés des planches du tabernacle en Exode 36, avec l'idée que les planches doivent s'adapter les unes aux autres. Elles sont placées l'une à côté de l'autre. L'image est intéressante pour Adam et Ève, pour la vie de couple, pour les relations. Ainsi, ce passage de la Genèse rappelle comment l'égalité dans la différence, l'égale complémentarité, est au cœur des relations hommes-femmes. Et ça, c'est une bonne nouvelle encore à proclamer dans toutes nos églises.
Nous sommes toujours en compagnie de Valérie Duval-Poujol, qui a coordonné la révision de la Bible Nouvelle Français Courant, une traduction œcuménique qui impose parfois de faire des choix entre certaines traductions, entre certaines traditions. Vous l'évoquez dans ce dernier texte biblique assez connu, le psaume 23.
Psaume de David. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur de verts pâturages. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me fait revivre. Il me guide sur la bonne voie, car il est fidèle à lui-même. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée. Tu remplis ma coupe, elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Le psaume 23 est un des textes les plus connus des Écritures, car sa profondeur et sa simplicité traversent les âges pour nous redonner force. À nouveau, on a parfois retenu certaines de ses formules sans toujours comprendre ce que cela voulait dire. « S'il restaure mon âme, s'il me fait revivre, c'est à cause de son nom, pour l'honneur de son nom. » Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne s'agit pas d'un Dieu sensible à l'honneur, comme dans ses séries télé, Game of Thrones ou autres, où on parle de venger l'honneur de sa famille. Non, ici ce dont il est question, c'est qu'il est fidèle à lui-même, comme on vient de le lire dans la Nouvelle Français Courant. Si Dieu me guide, c'est parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et demain. Ce n'est pas non plus à cause de moi, de ce que j'ai dit ou fait. Il n'y a rien que je puisse faire pour que Dieu m'aime davantage. Il n'y a rien que je puisse faire qui conduirait Dieu à moins m'aimer ou à cesser de m'aimer. Rien ne peut me séparer de son amour, lui mon berger. Il n'est pas seulement le berger de tout le troupeau, mais de chaque brebis, de chacun d'entre nous. En cette semaine de l'unité, on pense à cet autre texte biblique, en Jean 10, où Jésus se présente comme le bon berger, et la promesse qu'il fait alors en annonçant qu'un jour, toutes ses brebis deviendront un seul troupeau, avec un seul berger. Cela peut s'entendre comme une invitation à prier pour cette unité du peuple de Dieu. Soyons encouragés par cette promesse qu'il tiendra pour l'honneur de son nom, car il est fidèle à lui-même. Ce psaume contient un autre terme difficile, la houlette. Qui sait encore ce qu'est une houlette? J'ai entendu des enfants réciter « Ta roulette et ton bâton me rassurent ». En fait, cela signifie que le Seigneur utilise les instruments ou armes dont se sert un berger pour conduire et défendre ses brebis. En français courant, tu me conduis, tu me défends. Il y a un autre élément dans ce psaume qui est un marqueur confessionnel, le tout premier mot. Demandez à un protestant de vous réciter le psaume 23 et il vous dira « L'Éternel est mon berger », alors qu'un catholique dira « Le Seigneur est mon berger ». Il s'agit de savoir comment on traduit le nom de Dieu le plus courant dans le Premier Testament, ce nom qu'on appelle le tétragramme, qui comporte 4 lettres. On ignore tout à fait comment vocaliser ces consonnes, comment les prononcer. Certains vocalisent et prononcent Yahvé. Les Juifs, par respect pour Dieu, pour ne pas risquer de le prononcer de manière erronée, ont fait le choix de ne pas prononcer ce nom. Et lorsqu'ils le rencontrent dans le texte hébreu, à sa place ils disent un autre des noms de Dieu. Adonai, Seigneur, ou bien Hachem, le nom. Pendant longtemps, les Bibles protestantes ont traduit ce tétragramme par éternel, en voulant faire un lien entre ce nom et le nom de Dieu en Exode 3, au buisson ardent, quand Dieu se révèle à Moïse. Je suis celui qui est, ou je serai qui je serai. En fait, le vrai sens de ce nom rapporté dans l'Exode reste énigmatique, sans doute car ce n'est pas possible pour l'être humain de nommer Dieu, de le définir, de tout comprendre de lui. D'autres Bibles ont plutôt « Seigneur ». Cette traduction provient de la tradition juive, notamment par le biais de la Septante, la première traduction de la Bible en grec, qui a rendu ce tétragramme par « Kurios », c'est-à-dire « Seigneur ». Mais c'est aussi conforme au Nouveau Testament, car chaque fois qu'un passage de l'Ancien Testament y est cité et qui comprend le tétragramme, celui-ci est traduit « Kurios », « Seigneur ». Du coup, cette traduction « Seigneur », parfois écrite en petites majuscules, se retrouve dans de plus en plus de Bibles. Dans les milieux académiques francophones, on choisit de dire « Yahvé », une des vocalisations possibles du tétragramme. Cela permet de se distancer des options religieuses, une sorte de manière laïque d'appeler Dieu. Du côté catholique, pendant longtemps, les Bibles ont lu « Yahvé » ou parfois « Jéhovah ». Depuis le début des années 2000, elles ont abandonné ces traductions au profit de « Seigneur » qu'on retrouve dans toutes les Bibles interconfessionnelles. Qu'est-ce que ces noms différents induisent dans ma compréhension de Dieu? Quelle différence cela fait d'appeler Dieu éternel ou Seigneur ? Le nom d'éternel semble mettre l'accent sur l'essence divine, le fait qu'il est non communicable. C'est un nom qui désigne une des caractéristiques de Dieu, un seul de ses attributs, cela souligne qu'il est le tout autre. Avec Seigneur, on met davantage l'accent sur la relation entre Dieu et les êtres humains. Il est Seigneur, c'est-à-dire notre Seigneur. Cela souligne sa caractéristique relationnelle. Peut-être aussi, comme le dit l'exégète Thomas Römer avec humour, si les protestants ont eu longtemps plus de mal avec la traduction « Seigneur », c'est justement parce qu'elle évoque la soumission. Et pourtant, quel beau nom que ce nom du Seigneur! L'écoute d'autres traductions que celles à laquelle nous sommes habitués, nous protestants, avec « l'Éternel et mon berger », nous permet de réfléchir à nouveau à notre relation à Dieu. C'est un cadeau de l'œcuménisme, un échange de dons, que de s'enrichir au contact de traductions, de lectures différentes. En tout cas, dans ce psaume, le Seigneur, l'Éternel, vient en tout premier. C'est le tout premier mot, rappelant la première place que Dieu veut avoir dans nos existences. Il est le début et la fin de toutes choses, et dans nos vies, cela signifie qu'il nous précède et nous guide, comme le rappelle ce psaume 23, cheminant avec nous sur le sentier de notre existence, car il est fidèle à lui-même. Pour conclure notre temps ce matin, je vous propose une prière pour l'unité du pasteur baptiste Martin Luther King. Dieu éternel et miséricordieux, toi qui es un Dieu de paix, d'amour, d'unité, nous te prions, Père, et nous te supplions de rassembler par ton Esprit Saint tout ce qui s'est dispersé, de réunir et de reconstituer tout ce qui s'est divisé. Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton unité, de rechercher ton unique et éternelle vérité, et de nous abstenir de toute dissension. Ainsi, nous n'aurons plus qu'un seul cœur, une seule volonté, une seule science, un seul esprit, une seule raison. Et tournés tout entier vers Jésus-Christ, notre Seigneur, nous pourrons, Père, te louer d'une seule bouche et te rendre grâce par notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Esprit Saint. Amen.
J'étais en compagnie de Valérie Duval-Poujol, théologienne de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France, qui nous a présenté la Bible Nouvelle Français Courant, que vous pouvez retrouver aux éditions Biblio. Ainsi s'achève le service protestant proposé par la Fédération protestante de France et présenté par Benjamin Bories. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à Valérie Lavalard pour la prise de son. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-nous au service protestant, 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur les sites franceculture.fr et protestant-au-pluriel.org. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant « Service protestant ». Restez à l'écoute de France Culture pour les informations à 9h, suivi à 9h10 de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Bonne journée à vous sur France Culture.